Bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir invité ce matin pour participer à cette matinée sur la pédagogie. Je pense qu'elle sera très enrichissante. On retrouvera, à mon avis, tout au fil des présentations, certains des éléments que Gilles a pu nous présenter. Donc ce matin, je vais vous présenter deux outils qui ont été développés et mis en place au sein de anciennement Télécom Bretagne et maintenant l'IMT Atlantique. Donc, les deux outils que je vais vous présenter ce matin sont le jeu de rôle et un QCM qui est revisité. Ces deux outils se basent sur une réflexion concernant trois concepts, la motivation, l'autonomie et l'évaluation. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard. Ces outils sont différents. Du point de vue de l'usage, le jeu de rôle va plutôt être utilisé en introduction à un enseignement, alors que le QCM vient plus dans des phases de bilan ou de consolidation. Alors ces deux outils font partie d'un dispositif global que j'ai mis en place dans un de mes enseignements et qui est basé sur un apprentissage par projet. Donc ils trouvent une belle synergie avec les autres activités d'apprentissage didactif, mais on peut aussi les utiliser indépendamment pour tester ou débuter une activité. Sachant que le premier outil, le jeu de rôle, va être plus complexe à mettre en place, va nécessiter pas mal d'investissements, alors que le QCM revisité que je vous propose sera très simple à mettre en œuvre. Alors, avant de débuter, je voulais profiter un peu de l'outil interactif pour vous poser une question et savoir, selon vous, dans votre expérience, l'évaluation, qu'est-ce que c'est principalement ? Donc, je vous demanderai de choisir une des trois réponses. Alors, la première, c'est un moyen de noter les étudiants pour leur attribuer une note ou des crédits. Donc, c'est une vision sommative de l'évaluation. La deuxième, c'est une occasion de permettre aux étudiants de faire un bilan sur leur apprentissage. Donc là, on est plus dans l'approche formative. Ou la troisième solution, l'évaluation, c'est une activité d'apprentissage comme une autre. Donc, on a les réponses. Alors, majoritairement, on a la réponse B, c'est-à-dire une occasion de permettre aux élèves de faire le point sur l'apprentissage. Alors, en effet, peut-être que la question est mal posée, mais le but était de se questionner. Souvent, actuellement, on reste encore sur une approche sommative de l'évaluation plutôt qu'une approche formative. Et l'intérêt de ces trois questions, c'était de mettre en évidence ce que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure, c'est que pour moi, l'évaluation, ça peut être aussi une activité d'apprentissage comme une autre. Et tout à l'heure, Gilles nous l'a montré, où finalement, le fait d'avoir des périodes de tests récurrentes, c'est ce qui permettait de mieux mémoriser. Et donc, je vais essayer de montrer à travers les outils en quoi cette vision des choses est la mienne. Alors, je vais essayer de relancer. Donc, avant de présenter les outils, j'avais envie de revenir sur deux, trois concepts, notamment la notion de motivation. Alors, Roland Viau, que Gilles a cité tout à l'heure, a donné aussi une dizaine de conditions à respecter pour susciter la motivation. Alors, je n'ai pas le temps de toutes les présenter maintenant, mais on reviendra sur certaines d'entre elles tout à l'heure ou à travers vos questions. Juste pour vous dire qu'en fait, le jeu de rôle permet d'atteindre toutes ces conditions. Le QCM, un peu revisité, le fait dans une moindre mesure, mais tout le problème est l'implémentation qu'on va avoir des dispositifs. Parce que la première fois qu'on met en œuvre un dispositif, il ne faut pas chercher à atteindre toutes les conditions de motivation, mais se fixer un objectif d'en atteindre au moins quelques-unes est quelque chose qui prend du temps. Je tenais à insister sur le fait que dans ma vision des choses, quand on va construire une activité pédagogique, surtout si elle a pour but d'être interactive, il faut réfléchir simultanément aux trois points que sont l'autonomie, la motivation et l'évaluation. Pour moi, c'est trois choses qui vont ensemble et qui vont permettre de mettre en place notre activité. Et il ne faut pas les voir comme des choses séparées, mais plutôt comme un tout. Alors, je vais vous présenter le dispositif de jeu de rôle. Je vais essayer de l'illustrer avec un exemple sur l'enseignement dans lequel j'ai mis en œuvre, qui est un enseignement de business intelligence, où les étudiants sont menés à mettre au point un système d'information décisionnelle, donc un système informatique, qui, à partir de données opérationnelles d'une entreprise, va être capable de produire automatiquement des tableaux de bord qui vont permettre à un décideur d'évaluer les performances de son activité ou des processus de son entreprise. Cet enseignement se fait dans le cadre uniquement d'un projet. Il n'y a aucun cours magistral. Et une des problématiques qu'on a eues, c'était dès le début, d'ôter la complexité de débuter un enseignement face à un projet alors que les étudiants n'ont aucune connaissance. Et donc, on a mis au point cette activité pédagogique, ce jeu de rôle qui se déroule en 2 séances de 3 heures. Et les objectifs, c'était de remporter dès la première journée l'adhésion des étudiants et d'amorcer le travail qu'ils auront à réaliser en autonomie, vu qu'ils n'ont aucun cours magistral pour acquérir la connaissance. Alors, les objectifs qu'on vise à travers cette activité, c'est d'une part de leur donner une vision d'ensemble de toutes les compétences ou les connaissances qui sont attendues de leur part à la fin de l'enseignement, de leur permettre de découvrir les outils pédagogiques, car on a des outils d'évaluation par les pairs, donc notamment ce jeu de rôle ou des mécanismes comme le QCM. Et un des buts, c'est de leur permettre de créer en toute autonomie des groupes qui vont fonctionner tout au long du projet, puisque la constitution des groupes est critique, vu que c'est ce qui va nourrir l'enseignement. Alors, peut-être avant de parler de l'activité pédagogique du jeu de rôle, en quelques mots, présenter ce que c'est qu'un jeu de rôle. Un jeu de rôle sur table, c'est une activité, un loisir, où on va avoir plusieurs personnes qui se réunissent autour d'un maître du jeu. Ce maître du jeu, ou meneur de jeu, va créer un univers imaginaire où il va permettre à ses amis d'évoluer, d'agir et d'incarner un rôle. Et toute la difficulté du jeu de rôle est qu'on incarne souvent des rôles qui sont très loin de ce qu'on sait faire nous dans la vie courante, hein. Les gens vont lancer des boules de feu, mais dans la réalité, ils ne savent pas le faire. Et donc, on va rester sur le même principe. Pourquoi le jeu de rôle? Parce qu'à notre sens, il avait tous les atouts pour une bonne activité pédagogique. Il nécessitait de la coopération, il nécessitait de l'imagination, du dialogue. Il mettait en œuvre des mécanismes d'action et de conséquences immédiates. Et enfin, il nécessitait le respect des règles. Alors, le jeu de rôle a plusieurs éléments essentiels qui sont ici sur le côté. Je vais pas tous les présenter en détail, je vais peut-être juste en présenter quelques-uns et essayer de montrer comment ça a été mis en œuvre. Alors, la première chose la plus importante, c'est le meneur de jeu. Le meneur de jeu, ça va être vous, l'enseignant. Vous allez être responsable de créer cet univers et de mettre les étudiants en contexte. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les étudiants, ils étaient une soixantaine en groupe, et chacun de ces groupes d'étudiants représentait un cabinet de conseil, sauf un des groupes qui va les représenter, le client. Chaque cabinet de conseil avait pour objectif de rencontrer un émissaire du client, de recueillir son besoin et de produire dans la durée de l'activité des spécifications de tableaux de bord, c'est-à-dire des maquettes en fait qu'ils allaient dessiner sur des tableaux blancs pour essayer de montrer ce que serait leur véritable réalisation s'ils avaient à la mener. Et de fait, dans l'UV, ils seront menés à la mener. Les clients, eux, de leur côté, rencontrent l'enseignant qui va jouer le rôle d'un responsable de l'entreprise et qui va leur dire: ben voilà, notre entreprise, elle a une nouvelle stratégie. On aimerait bien la mettre en place, mais pour ça, il y a un axe important, c'est d'avoir un outil décisionnel adapté à cette nouvelle stratégie. Et on aimerait que, en un temps limité, vous alliez voir chacun d'entre vous un cabinet de conseil pour exprimer un besoin qui va nous permettre d'avoir cet outil décisionnel. Et votre objectif est de sélectionner le cabinet de conseil que vous jugerez le plus apte à réaliser le projet, et c'est eux qu'on embauchera. Alors, là, on voit deux des critères de VIO dans ce dispositif. Le premier, c'est la signifiance de cette activité. Les étudiants vont se retrouver dans une situation auxquels ils seront confrontés dans 6 mois, c'est-à-dire à la fin de leur dernier semestre, puisque c'est un enseignement qui a lieu en troisième année. Ils vont arriver en stage et ils vont se retrouver dans des boîtes de conseil où ils auront des situations comme ça à gérer. C'est aussi un défi, un des critères de Vio. Le défi est surmontable, mais ça reste un défi. Ils arrivent, ils ne connaissent rien à l'enseignement, et au bout de 15 minutes, on leur dit, ben voilà, maintenant il va falloir faire les choses. Au début, ça peut les désarçonner, mais on va voir, c'est faisable. Alors, c'est faisable, pourquoi? Parce qu'on a un scénario. Donc, en tant qu'enseignant, ce scénario, vous devez penser à 3 critères importants. Le premier critère, c'est de leur donner des repères. Donc, ces repères, ils les ont, c'est leur projection dans leur activité professionnelle. Ils arrivent à voir, si on leur dit, cabinet de conseil, manager, client, assistance à maîtrise ouvrage, c'est des termes qu'ils ont appris, et ils arrivent à se projeter dedans. Donc, ça a du sens. Il faut voir que là, on est en troisième année. Peut-être que pour des étudiants de première année, ça en aurait moins. Le deuxième critère à mettre en place après les repères pour construire votre scénario, c'est de donner du rythme. Même dans une activité active, les étudiants ont besoin de ce rythme. Et là, ce rythme, il vient avec 2 événements au cours de l'activité. Le premier événement, c'est la rencontre avec le client. En fait, chacun des membres du groupe des clients va aller rencontrer un des cabinets de conseil et faire un entretien de recueil du besoin. Donc pendant une première phase, les cabinets de conseil vont devoir réfléchir à la mise au point d'un guide d'entretien et la manière de mener leur entretien, de façon à recueillir au mieux le besoin du client. Le client, lui, donc les étudiants qui jouent le client, vont devoir réfléchir, waouh, j'ai une nouvelle stratégie, quel est le besoin que je vais pouvoir expliciter, de quelle manière je vais pouvoir l'expliciter, de façon à parvenir à un outil qui va me permettre d'être utile ensuite. Donc dans une première phase, ils travaillent sur ces thèmes, et le premier événement a lieu, ils rencontrent le client et ils mènent l'entretien. Le deuxième événement clé du jeu de rôle qu'on a mis en place, c'est l'évaluation. En fait, le feedback va être très rapide. Les clients doivent choisir parmi les 7 cabinets de conseil celui qui est le mieux à même, celui qui les a convaincus pour réaliser leur projet. Et donc, là, pendant cette deuxième phase, les cabinets de conseil vont devoir passer à la réalisation, donc dans notre cas, c'est-à-dire la spécification, le dessin de ces maquettes, alors que les clients vont devoir réfléchir aux critères d'évaluation qui vont permettre d'évaluer les tableaux de bord. Et c'est là où on se rend compte que les étudiants, avec les bonnes ressources, vont être capables, dès la première séance, de mettre au point et de définir les critères qui vont nous permettre à nous de les évaluer à la fin de l'UV. Donc, j'ai dit 3 critères importants pour le scénario. On avait les repères, on avait le rythme, et le troisième point, c'est la liberté. Les étudiants doivent se sentir dans une activité qui est authentique. C'est pas possible qu'il y ait une solution déterminée par l'enseignant. C'est pas possible que, quoi qu'ils fassent, ils arrivent au même chemin, ou à la même destination. C'est vraiment important qu'ils se sentent libres d'explorer, quitte à ce qu'ils se perdent et qu'ils fassent des erreurs. Ça leur sera profitable ensuite, on est juste dans une activité d'introduction, mais la notion de liberté est fondamentale. Alors, cette notion de liberté vient avec la notion de personnage. Et avec la notion de personnage, il y a une difficulté centrale dans la mise en place du jeu de rôle, comme dans tout jeu de rôle, c'est, mais les étudiants, ils n'ont aucune des connaissances et des compétences pour faire ce qu'on leur demande. Et c'est vrai, ils ont 3 heures pour réaliser quelque chose, alors qu'ils n'ont jamais appris à le faire. Et ça, il y a des moyens pour le simuler. En effet, quand on fait un jeu de rôle, personne ne lit l'élève ancien ou ne sait lancer une boule de feu. Par contre, tout le monde arrive à faire sa quête. Et donc là, les étudiants, on va leur permettre de simuler ces connaissances et compétences. Et il y a différents moyens de le faire. Un des premiers moyens, par exemple, c'est en donnant à l'expert en visualisation et tableau de bord un ensemble de ressources qui vont donner, de manière synthétique, les bonnes pratiques à respecter pour créer des tableaux de bord. À certains rôles, on va leur donner des objectifs précis. Le manager, par exemple, devra gérer des ressources humaines ou des ressources matérielles. L'assistant à maîtrise d'ouvrage, lui, aura un contact privilégié avec les étudiants qui jouent le client. Donc il aura plus de temps pour mieux comprendre le besoin. Et un expert quelconque, par exemple, en base de données ou en un autre outil ou méthode utile, pourra rencontrer un expert qui sera joué par un des enseignants, et il aura la possibilité d'avoir des réponses précises à certains des problèmes qu'il aura, s'il a su les formuler. Et donc c'est comme ça qu'on va simuler les compétences et les connaissances des personnages. Donc on voit que les personnages doivent avoir accès à des ressources. Ces ressources sont importantes, il ne faut pas en donner trop, il faut réussir à donner de manière synthétique pour tenir dans la durée de l'activité. Mais il faut aussi donner aux personnages, donc aux étudiants, des objectifs. Alors, chaque groupe d'étudiants a son objectif, mais il est très important que chacun d'entre eux, que chaque rôle incarné ait un objectif personnel, de manière à ce qu'ils se sentent impliqués dans la réussite du projet ou dans l'échec du groupe. Mais c'est la notion de responsabilité qui est importante. Il ne faut pas que chacun se dise « c'est la faute de celui d'à côté ». Il faut que chacun puisse se dire « oui, moi aussi j'ai mon objectif et j'ai contribué ». Dans une certaine mesure à la réussite de mon groupe. Voilà, donc le jeu de rôle, c'est une activité qui va être intéressante parce qu'elle va mettre les étudiants en situation, des situations authentiques, où ils vont vivre une expérience de vie, ils vont partager des choses ensemble. On se rend compte qu'à la fin, ils vont avoir lu tout un ensemble de ressources, PDF, web, etc., alors que si on leur avait donné 3 heures pour le faire à la maison, c'est pas sûr qu'ils l'aient fait. Là, ils l'ont fait, ils les ont lus, ils les ont intégrés et ils les ont mis en pratique. Et ils se rendent compte qu'il y a des moyens pour avancer, il y a des moyens pour s'auto-évaluer, c'est les autres, c'est le regard des autres, c'est le fait d'échanger et d'argumenter. Alors, avant de présenter le prochain outil, je vous propose qu'on ait une petite phase d'interaction. Et pour amorcer cette phase d'interaction, on va profiter encore du système interactif où vous avez une solution à choisir parmi ces trois. C'est votre ressenti à vous par rapport à ce dispositif. Alors, est-ce que petit 1, vous voyez bien comment le mettre en place ou ça vous tente? Petit 2, peut-être que vous voyez, mais en fait, vous n'êtes pas sûr d'avoir les ressources temporelles, matérielles, humaines pour le faire. Ou petit 3, cet outil vous semble pas adapté à votre besoin ou à vos attentes. Et ça permettra donc d'entamer une discussion. Alors, hop. Alors, on a une petite partie d'entre vous qui voit assez bien comment mettre en place ce type de dispositif. La majorité d'entre vous pense ne pas avoir les ressources nécessaires. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques questions par rapport au dispositif que je viens de poser.
Quand on définit des rôles, ce qui est très difficile, c'est que souvent il y a des choses qu'on a oubliées de préciser dans le cahier des charges qu'on donne à chacun, et du coup ça merdoie rapidement. Donc de manière incrémentale, comment vous l'avez testé? Est-ce que vous l'avez testé directement et amélioré au fur et à mesure des années, ou est-ce que vous avez d'abord fait des tests à blanc entre collègues pour voir si ça fonctionnait?
Alors non, on n'a pas fait de tests entre collègues, on a mis en place le jeu de rôle directement avec les étudiants. Alors, en ce moment, c'est 2 activités de 6 heures, mais la première fois, on était parti uniquement sur 3 heures. Il faut accepter que les premières occurrences, elles soient pas parfaites non plus. Maintenant, chaque étudiant a une fiche avec un rôle très précis, avec des ressources bien ciblées. La première fois, il manquait certains des rôles. Il y avait trop de ressources, donc il les utilisait pas, notamment les livres. C'était ma grande déception. Hein. On leur donnait un paquet de livres, ils n'étaient pas ouverts. Donc c'était bien plus intéressant d'avoir les PDF des chapitres imprimés. Je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir un rôle primordial, le manager, comme on l'appelle, dans chacune des équipes, parce que gérer 60 étudiants, même à 2, c'est compliqué, mais avoir 8 managers avec qui interagir, c'est beaucoup plus simple. Donc ça permet, à un moment donné, de les récupérer et de leur dire « bon ben voilà, on a fait une petite erreur » ou « là ça se passe pas assez vite » ou « ça va trop vite » ou « on sent que vous avez besoin de plus de temps » et donc on interagit avec des étudiants qui ont un rôle privilégié. Et donc on peut faire des erreurs dans le dispositif, mais il faut surtout travailler les moyens d'interaction avec les étudiants. On n'a pas le temps de passer voir tout le monde pour donner les consignes, donc c'est très important d'avoir ces relais au sein de chaque groupe et donc de responsabiliser les étudiants par rapport au rôle qui est soit de être en contact avec les enseignants, soit au rôle qui permet d'être en contact, par exemple, avec les rôles joués par les autres étudiants. Et après, une fois qu'on a ça comme socle, on peut toujours faire avec en allant voir soit le groupe des clients, soit l'ensemble des managers ou des spécialistes de tel ou tel domaine, des étudiants qui ont le rôle de ces spécialistes-là. Et après, c'est des ajustements qui viennent chaque année, et notamment, après le jeu de rôle, on leur fait à mi-UV un petit questionnaire pour leur demander ce qu'ils ont ressenti de cette activité, et d'année en année, on fait des ajustements. Alors pourquoi le tableau de bord? C'est parce que c'était le point final de l'enseignement. En fait, ils doivent mettre au point un système d'information décisionnelle dont le but à la fin est de produire des tableaux de bord qui seront utilisés par les décideurs. Et ce qui est important, mais souvent comme dans tout projet, c'est l'adéquation du besoin du client avec le livrable final et leur faire commencer par produire ce qu'ils devront faire à la fin. Ça leur permettait de mettre des images, de mettre des mots, de mettre une expérience sur ce qu'on va leur demander de produire. Parce que dès qu'on va rentrer dans les aspects techniques, la modélisation dimensionnelle des données, les processus de traitement, et ben, de suite on a la tête dans le guidon, on est dans l'informatique, et on oublie qu'à la fin il y a quelqu'un qui va utiliser ce qu'on va faire. Et donc dès le début leur dire « voilà, vous allez faire ça », ben, c'était un moyen de les accrocher, de leur dire que ce qu'ils vont faire ça a un sens.
Tout c'est intéressant, c'est un tableau de bord pour le client.
Tout à fait. Pas pour eux.